VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui VOA Afrique, édition du mardi 1er février 2022, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Namit Talani.
Pour commencer, les titres.
Dans quelques instants, le journal de la CAN d'Emmanuel Juntap.
Des émissaires internationaux trouvent très ouverte la junte au pouvoir au Burkina Faso et ils parlent de bons signes.
La junte au Mali expulse l'ambassadeur de France à Bamako. Paris dit prendre note.
En Libye, le Parlement annonce son intention de désigner un nouveau Premier ministre. Abdelhamid Dbeiba dit ne céder le pouvoir qu'à un gouvernement élu.
Moscou et Washington s'écharpent au Conseil de sécurité de l'ONU au sujet de l'Ukraine.
Voilà pour les titres. Le journal maintenant.
Les équipes nationales du Burkina Faso et du Sénégal sont les premières dans les starting blocks demain en vue d'une place finale de la Coupe d'Afrique des Nations. À la veille de ce match, chaque sélection affûte ses armes. De Yaoundé, pour le journal de la CAN, Emmanuel Juntap. Bonjour Emmanuel.
Bonjour. Les Lions de la Teranga ont eu une séance d'entraînement hier à Yaoundé sous le regard d'Amédine Sy.
En effet, les poulains d'Aliou Cissé n'ont même pas eu le temps de savourer cette belle qualification acquise face à l'équipe de la Guinée équatoriale car ils ont réchauffé les crampons ce lundi pour effectuer leur première séance d'entraînement sur la pelouse du complexe annexe du stade d'Olembé. Pour ce premier galop d'après-qualification, le staff technique a managé les titulaires en faisant travailler les remplaçants communément appelés coiffeurs. Les titulaires, pour leur part, ont effectué quelques tours de terrain avant de rejoindre la salle de musculation. Il faut dire que tous les regards sont braqués sur cette confrontation entre Lions du Sénégal et étalons du Burkina Faso, Kalidou Koulibaly.
Le Burkina va être un match très difficile. Ils nous connaissent, on les a joués pour les qualifications de la Coupe du Monde en 2019. On sait que ça va être un match très très difficile, mais on va bien se préparer pour gagner ce match parce que voilà, on a à cœur de bien jouer et de gagner les matchs.
À l'image du capitaine Kalidou Koulibaly, l'attaque des Lions et de Villarreal prend très au sérieux l'adversaire du Sénégal en demi-finale.
On sait que c'est une bonne équipe, ils ont sorti la Tunisie, ils se sont qualifiés, donc s'ils sont en demi, c'est pas pour rien. Allez, on va se préparer comme on a préparé tous les matchs jusqu'à présent.
Le team Sénégal effectuera son dernier galop ce mardi avant d'affronter les étalons du Burkina Faso. Ce sera ce mercredi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Amédine Sy pour la VOA Afrique.
Aucun cas de Covid-19 dans l'équipe du Sénégal. Les résultats de tous les joueurs et membres de l'encadrement technique sont retournés négatifs hier, selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Ces tests ont été effectués 48 heures avant le coup d'envoi de la rencontre de demain, conformément au protocole sanitaire de la CAF. Ce mardi, les entraîneurs du Sénégal et du Burkina Faso seront face à la presse pour la traditionnelle conférence d'avant-match. Du côté des joueurs, la demi-finale est un match à grands enjeux, comme l'explique le défenseur des étalons, Edmond Tapsoba, au micro de Kader Traoré Mamadou.
Je peux dire d'abord que ce match sera très 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 important et très coriace, parce qu'on connaît le Sénégal comme l'une des équipes favorites au titre. Et nous aussi, si on a pu se qualifier pour les demi-finales, c'est qu'on a du potentiel. Nous devons prendre le match au sérieux et continuer à faire ce qu'on a fait durant les huitièmes de finale et les quarts de finale pour espérer aller en finale. Durant les éliminatoires et puis les quarts de finale et les huitièmes de finale, on a vu que nous, parce qu'on a encaissé des buts, mais sur le match de l'équipe qui a arrêté. Ce qui veut dire que dans le jeu, on a une défense solide.
Le Maroc est l'un des grands absents du carré d'as qui aspire au sacre continental cette année. Les joueurs du coach Vaïd ont été sortis de la compétition par les pharaons d'Égypte. C'est une élimination qui fait très mal au royaume chérifien. Abdeslam Ouadou, ancien capitaine du Maroc, finaliste de la CAN 2014 en Tunisie, en parle au micro d'Élysée. Oumpatine.
Je crois que cette élimination, effectivement, elle va avoir du mal à passer au pays. Parce que beaucoup de gens plaçaient beaucoup d'espoir en cette équipe. Et maintenant, je crois qu'il faut analyser froidement cette sortie, avec prendre beaucoup de recul. Vaïd a, a construit un groupe solide. Il ne faut pas brûler les étapes parce que je vois gros comme une maison l'éviction du sélectionneur, alors que nous avons un match barrage pour la Coupe du Monde très important qui arrive rapidement.
La deuxième demi-finale entre le Cameroun et l'Égypte est programmée jeudi à 19h temps universel au stade d'Olembe, frappé le 24 janvier dernier par un incident mortel. Depuis Libreville, Jules Valentin Gouet, dans le coup de sifflet du jour, revient sur cet incident, loin d'être l'unique du genre.
Bonjour. La tragédie d'Olembe n'est pas la seule à avoir endeuillé le football en pleine action. Le prestigieux gardien de but blanc du Zimbabwe, Bruce Grobler, champion d'Europe avec Liverpool en 1984, a vécu sur le terrain en l'espace de 4 ans seulement, le drame de la finale de C1 du ESL, où lors de la rencontre Juventus-Liverpool, une bousculade ôta la vie le 29 mai 1985 à 39 supporters, puis ce fut la tragédie d'Hillsborough où le bilan fut supérieur. Bruce Grobler, cet ancien soldat de la guerre de Rhodésie, ne s'en remit pas. Le minimum à faire en pareille occasion est d'honorer concrètement la mémoire des disparus, ce qui sera sûrement fait par les officiels locaux, surtout si le Cameroun gagne. Mais dans l'immédiat, sur le plan sportif, la question est de savoir si la tragédie va galvaniser l'équipe camerounaise à son retour jeudi sur les lieux de l'accident ou au contraire profiter à l'Égypte. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a pris les devants en demandant à ses joueurs de gagner pour honorer les disparus et d'assister humainement et matériellement leurs proches. Son appel a été entendu. À jeudi.
Le journal de la CAN de ce matin s'achève. Amédine Sy, Kader Traoré, Élisée Oumpatink, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Emmanuel, merci. Dans le reste de l'actualité, les émissaires internationaux qui ont rencontré hier à Ouagadougou le nouvel homme fort du Burkina Faso assure que la junte au pouvoir est très ouverte aux discussions. Ils ont aussi vu le président renversé, Roch Marc Christian Kabore, qui va très bien. Détail avec Eric Manirakidza.
Les discussions ont été très franches. Ils ont semblé très ouverts en suggestions et propositions qu'on leur a faites. Pour nous, c'est bon signe, a déclaré à la presse la ministre des Affaires étrangères du Ghana. Elle était à la tête d'une délégation conjointe de la CEDEAO et de l'ONU qui a rencontré à la mi-journée Paul-Henri Sandaogo-Damiba, le nouvel homme fort du Burkina, et plusieurs membres de la junte au pouvoir depuis un coup de force lundi dernier. La délégation a également pu rencontrer le président déchu, Roch Marc Christian Kabore, placé en résidence surveillée dans une villa de Ouagadougou. Il va très bien, a assuré Anadif Mahamat Saleh, représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, ONUAS, qui a souligné que la délégation a exigé sa libération. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR a annoncé hier assurer la continuité de l'État en attendant la mise en place des organes de transition, selon un acte fondamental lu à la télévision nationale par un de ses membres, le lieutenant-colonel Cyprien Kabore. Le texte précise que l'acte fondamental lève la suspension de la Constitution, que le MPSR devient l'organe central des institutions et son président chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales.
Le ministre français des Affaires étrangères a déclaré hier que la France prend note de l'expulsion de son ambassadeur au Mali. Il a rappelé sa solidarité à l'égard de ses partenaires européens et son engagement à poursuivre la lutte antiterroriste. Les détails avec Rosine Munezero.
La France prend note de la décision des autorités maliennes de mettre fin à la mission de l'ambassadeur de France au Mali. Joël Mayer a été convoqué hier à Bamako et il lui a été notifié de la décision du gouvernement malien, l'invitant à quitter le pays dans les 72 heures. Monsieur Mayer, 60 ans en poste depuis 2018, a déjà été convoqué en octobre 2021. Le Premier ministre malien, évoquant la réduction des effectifs français de l'opération Barkhane, l'avait qualifié d'abandon en plein vol. Le président français Emmanuel Macron avait réagi vivement, parlant de honte de la part de ce qui n'est même pas un gouvernement. Puis Florence Parly, la ministre française des armées, a déclaré le 25 janvier que la junte multipliait les provocations. Deux jours après, son collègue des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a qualifié la junte d'illégitime et ses décisions d'irresponsables. C'était peu après le retrait ou l'expulsion du contingent danois de l'opération Takuba, qui venait juste d'arriver à Bamako.
Au Sénégal, la justice a libéré 12 personnes détenues depuis 4 ans dans le cadre d'une enquête sur le massacre de 14 hommes en Casamance, dans le sud du pays. Toutefois, 13 autres ont été renvoyés devant une chambre criminelle. Le point avec Abdourahmane Dia.
L'annonce de la libération de ces personnes détenues depuis 2018 à Ziguinchor a été faite hier lundi par leur avocat, maître Siré Clédonly. Parmi les 13 autres détenus qui seront jugés figurent le journaliste René Crapin-Bassen et un membre de l'aile politique de la rébellion casamançaise, Omar Ampouabodjan. La date de leur procès devant le tribunal de grande instance de Ziguinchor n'est pas encore fixée, a indiqué maître Lee. L'avocat n'a pas fait de lien entre leur libération et les incidents survenus en début de semaine dernière. L'armée sénégalaise a annoncé la mort de 2 soldats sénégalais et la disparition de 9 autres à la suite d'un accrochage avec des rebelles présumés du MFDC en Gambie, voisine du Sénégal. Une délégation de la communauté catholique Sant'Egidio est en Gambie depuis le 27 janvier pour une médiation entre les parties en conflit, a indiqué lundi à l'AFP une source dans cette organisation.
Le Parlement libyen a annoncé hier son intention de désigner un nouveau Premier ministre à la tête du gouvernement intérimaire, une démarche susceptible d'exacerber les luttes de pouvoir. Après des années de conflits armés et de divisions régionales entre l'Est et l'Ouest du pays, un gouvernement intérimaire a été mis sur pied il y a un an sous l'égide de l'ONU pour mener la transition d'ici une double élection présidentielle et parlementaire initialement prévue le 24 décembre.
Le Parlement estime que le mandat de l'exécutif actuel avait expiré avec le report des élections, mais le Premier ministre Abdelhamid Dbeiba répète à l'envi qu'il ne cédera le pouvoir qu'à un gouvernement sorti des urnes. À l'issue d'une session tenue à Tobrouk, le porte-parole du Parlement a annoncé l'ouverture des candidatures pour le poste de Premier ministre, précisant que les candidats retenus seraient auditionnés par les députés le 7 février.
Au Mozambique, la police annonce la mort d'un chef djihadiste tanzanien responsable d'importantes attaques dans le nord du pays. Il a été tué samedi matin par les forces mozambicaines et rwandaises dans une opération des forces de sécurité, selon la police. Twail Mudim avait notamment mené l'attaque de 2020 qui avait permis la prise de Mosibuada Praia, le port du nord où arrivaient des cargos pour le compte des gros projets gaziers en cours dans la région.
La Russie et les États-Unis se sont déchirés au Conseil de sécurité de l'ONU hier sur les troupes massées par Moscou près de l'Ukraine, Jacques Aristide.
L'ambassadeur de la Russie aux Nations Unies, Vassili Nebenzia, a d'emblée accusé Washington de chercher à créer l'hystérie et à tromper la communauté internationale avec des accusations infondées. Son homologue américaine, Linda Thomas-Greenfield, lui a rétorqué que le déploiement de plus de 100 000 militaires russes autour de l'Ukraine menaçait la sécurité internationale. Elle accuse Moscou de vouloir déployer début février, preuve à l'appui, dit-elle, plus de 30 000 militaires supplémentaires au Bélarus, dont le régime est très proche du Kremlin. Pour Vassili Nebenzia et son homologue du Bélarus, Valentin Rybakov, il s'agit d'exercices militaires conjoints. Vassili Nebenzia demande sur quelle base l'Occident peut affirmer qu'il y a plus de 100 000 militaires russes déployés aux abords de l'Ukraine, rappelant qu'avant l'invasion de l'Irak en 2003, Washington avait assuré avoir des preuves d'armes de destruction massive dans ce pays jamais trouvées. A-t-on mesuré? L'ambassadeur de l'Ukraine à l'ONU, Sergueï Kislytsia, a demandé que son pays ne soit pas intimidé par des mouvements militaires. Le président Joe Biden prévient que si la Russie attaque l'Ukraine, elle subira des conséquences rapides et sévères. Moscou nie tout projet en ce sens. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit à nouveau discuter de l'Ukraine le 17 février prochain.
Et Moscou a affirmé ce mardi qu'il n'allait pas battre en retraite face aux menaces de sanctions de Washington en lien avec les tensions autour de l'Ukraine, donnant le ton avant un entretien téléphonique entre les ministres russes et américains des Affaires étrangères. De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons à nos dossiers du jour. Au Tchad, le dialogue national inclusif promis par les autorités de transition est reporté pour la deuxième fois, prévu entre novembre et décembre 2021, puis reporté au 15 février. Cette consultation, demandée par les forces vives de la nation après la mort du maréchal Idriss Déby Itno, se tiendra finalement en mai 2022. Réaction des acteurs politiques dans ce reportage d'André Kotmadjingar, notre correspondant à N'Djamena.
En fin d'année, le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby, a annoncé la tenue de ce dialogue au 15 février 2022. Un mois après, son premier ministre Albert Pahimi Padaké dit qu'il n'est pas évident de respecter ce délai.
Constatant la dispersion des politico-militaires dans le monde, les questions logistiques, beaucoup d'entre eux n'ont pas de titre de voyage. Toutes ces questions logistiques ont fait que le pays hôte, le Qatar notamment, a proposé de réunir les politico-militaires à partir du 27 février 2022. Le COTNI prévoit déposer au premier ministre du gouvernement le rapport général incluant les conclusions de Doha le 15 avril 2022. À partir de ce moment, le dialogue pourra être convoqué le 10 mai 2022.
Certains acteurs politiques disent ne pas être surpris par ce report.
Déjà, la date du 15 février a été fixée avant même que le COTNI ne soumette son rapport. Or, il est prévu que le COTNI soumette son rapport au Premier ministre et le président du CMT. C'est sur cette base qu'on va fixer la date du dialogue. Mais le rapport n'est même pas encore sorti, on a fixé la date. Ce qui montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Bédoumra Kordé, président du groupe de réflexion et d'action pour l'appel du 1er juin. Pour lui, les raisons à invoquer pour justifier le report de ce dialogue ne sont pas fondées.
Les politico-militaires se sont retrouvés à Lomé. Par deux fois, il me semble, ils sont retrouvés sous l'égide de Santé Gideon à Rome. 14 étaient présents. Donc, c'est assez étonnant qu'on dise que c'est parce qu'ils sont dispersés, parce qu'ils n'ont pas de moyens de déplacement. C'est pas convaincant.
Le président du sous-comité chargé de réforme institutionnelle du COTNI, comité d'organisation de ce dialogue, Dr. Alfred Ramadi, déclare que la réussite de cette messe politique est conditionnée par le pré-dialogue des politico-militaires.
Vous ne pouvez pas arrêter l'agenda et tout sans tenir compte de ce qui constitue le plus gros problème du Tchad depuis 60 ans. Et il faudrait donc rencontrer ces hommes et ces femmes qui ont pris les armes, les écouter et intégrer aussi un certain nombre de leurs revendications.
Rangar Timothée, président national du parti cadre d'action populaire pour la solidarité et l'unité de la République, estime que la date annoncée précédemment par le président du Conseil militaire de transition pour la tenue de ce dialogue est purement politique.
Tout notre souhait, c'est que ce dialogue-là se tienne. Et ce qui s'est passé à Abéché est une autre épine qui vient piquer le pied des gouvernements. Parce qu'il faudrait que les gens soient dans les dispositions pour aller au dialogue. Mais tel que ça se passe, déjà, la colère est très grande.
La coordination des actions citoyennes Wakitama et certaines forces vives de la nation maintiennent leur principale revendication qui est celle de la révision de la charte de transition pour deux raisons. Matérialiser la souveraineté de ce dialogue et indiquer clairement que tous les dirigeants de la transition ne seront pas candidats aux prochaines élections pour ne pas être jugés partis. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Et puis, certains partisans du coup d'état militaire de la semaine dernière au Burkina Faso ont célébré ce putsch en exhibant les drapeaux russes et ont appelé à une nouvelle alliance avec Moscou. Bien que l'ampleur du sentiment pro-russe au Burkina Faso ne soit pas claire, Il ne fait aucun doute que nombreux en ont assez des efforts français dans la lutte contre les gangs et les groupes islamistes. Reportage de Henry Wilkins à Ouagadougou, récit de Eric Manirakiza.
Dans les rues de Ouagadougou mardi, de manifestants arborent un drapeau russe célébrant le coup d'état militaire survenu la veille. Ils se sont également rendus sur la place de la nation de Ouagadougou pour célébrer la prise de pouvoir par les militaires. Certains ont brandi un drapeau russe et se sont exprimés au micro de la Voix de l'Amérique.
Non, nous ne voulons plus de la France. Nous sommes ici parce que nous voulons l'aide de la Russie. La France n'a rien fait qui nous permet de réussir.
La France a apporté une aide militaire au Burkina Faso pendant le conflit qui l'oppose depuis 6 ans aux groupes armés liés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Au début du mois, le chef de la junte du Mali voisin, le colonel Assimi Goïta, a accueilli dans son pays des mercenaires de la société de sécurité privée russe, Wagner, qui entretient des liens étroits avec le Kremlin. Les manifestants du Burkina Faso ont brandi des photos de Goïta lors de la manifestation de la semaine dernière et le 22 janvier, ils ont organisé une marche en solidarité avec le Mali. La police a dispersé le rassemblement en utilisant des bombes flash et des gaz lacrymogènes. Les analystes affirmaient que ces derniers mois, le sentiment anti-français s'est accru et le pays s'est tourné vers la Russie. Ils estiment que le Mali utilise l'implication de la Russie comme monnaie d'échange après que la CEDEAO a sanctionné le pays pour son refus d'organiser des élections démocratiques dans les 5 prochaines années. Paul Melu, analyste à Chatham House.
The Malian military junta is trying to mobilize national feeling.
La junte malienne essaie de mobiliser le sentiment national, si vous voulez. Elle semble avoir fait appel aux Russes ou avoir cherché à le faire comme une sorte d'outil de pression. Il n'est pas tout à fait clair quel impact militaire pratique elle pourrait réellement apporter.
How much practical military impact could actually bring.
L'ambassade de Russie au Burkina Faso et la junte militaire ont toutes deux refusé d'accorder une interview à VOA. Bernard Bermonga, un commentateur politique burkinabé, est pragmatique quant à la situation.
Entre la France et la Russie, qui est le meilleur partenaire? En réalité, c'est quoi? Que ce soit avec la France, que ce soit avec la Russie ou tout autre pays, ce n'est pas du donné, ce n'est pas gratuit. Il y a un retour derrière. Mais ce que les uns et les autres cherchent, c'est qui peut m'accompagner pour que je sorte de la situation dans laquelle...
L'activiste Béogo François du mouvement pour la reconstruction du Burkina Faso a participé à la manifestation.
Voilà, nous ne sommes pas contre la France, mais la France doit gérer leurs affaires et nous permettre aussi de gérer nos affaires. Voilà, laissez nos soldats tranquillement, ils vont avoir l'esprit tranquille pour réfléchir sur comment s'organiser et libérer le peuple.
Entre-temps, l'organisation russe qui formait les troupes en République centrafricaine a proposé un soutien militaire au Burkina Faso. Il reste à voir si le nouveau dirigeant de facto du Burkina Faso, Paul-Henri Damiba, acceptera cette offre.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, Jean-Marc Kabound, président intérimaire de l'UDPS, le parti du président Félix Tshisekedi et premier vice-président de l'Assemblée nationale, est radié de sa formation politique. C'est quelques jours après des différends entre sa garde et celle du président congolais. Eddie Isango a joint à Kinshasa le porte-parole de l'UDPS, Paul Chilumbo.
Suite à plusieurs clameurs publiques, c'est-à-dire qu'il y avait le secrétaire général de l'UDPS, qu'on appelle le président AI, qui s'est plusieurs fois méconduit sur la voie publique, au point où le dernier incident qui avait scandalisé tout le monde, c'était l'incident où on voyait ces gardes rapprochés qui agressaient pratiquement un membre de la garde républicaine du président de la République. Non seulement cela, ils lui ont arraché l'arme qu'il détenait, ils l'ont agressé, ils l'ont mis dans une coffre de véhicule et sont allés le déposer à l'auditorat militaire.
Et quelle est la décision que les partis ont prise à son encontre exactement?
Les partis l'avaient convoqué d'abord à partir de la commission de discipline pour qu'il puisse venir présenter ses moyens de défense. Malheureusement, à 2 reprises, il n'est pas venu. Le parti l'a déchu de toutes ses fonctions au sein du parti et l'a radié du parti.
Qu'est-ce que vous lui reprocher exactement?
C'est d'abord, selon la commission de discipline, qu'en étant président ad interim du parti, en principe, il avait déjà abandonné le parti. Il s'en occupe plus. On lui reproche d'avoir détourné, ça c'est selon la commission de discipline, l'argent des cartes des membres du parti, d'avoir signé un accord avec Néhémie Moulagna accordant la majorité parlementaire au FCC à l'époque, d'avoir agressé la garde républicaine, donc la garde présidentielle, et il y a toute une autre série de faits qui lui sont reprochés.
Jean-Marc Kabounde est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais quelle incidence on pourrait avoir cette décision du parti à son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale.
Le poste qu'il détient à l'Assemblée nationale, c'est un poste du parti. Donc, comme il a été radié au niveau du parti, je crois que c'est le groupe parlementaire UDPS qui devait saisir les bureaux du Parlement pour que ce poste revienne au parti et le parti va désigner un autre membre.
Il n'a pas officiellement démissionné, il a plutôt annoncé sa démission à travers un poste Twitter.
Oui, mais là, on ne parle on ne parle plus de démission, on parle du retrait. C'est-à-dire que le poste qu'il détenait, c'était en tant que membre de l'UDPS. C'est l'UDPS qu'il avait désigné comme premier vice-président à l'Assemblée nationale. Comme il a été chassé ou radié de l'UDPS, donc ce poste revient à l'UDPS comme lui n'est plus membre de l'UDPS et l'UDPS récupère son poste.
Et qu'adviendra-t-il de son poste de député national de l'UDPS?
Notre règlement intérieur veut que du moment où il n'a pas, lui, démissionné du parti, il va garder son siège au Parlement, donc il va rester un député national comme tous les autres députés.
C'était Paul Tshilumbu, porte-parole de l'UDPS, parti du président Félix Tshisekedi. Les véhicules électriques sont en forte demande alors que le prix de l'essence et les inquiétudes sur les émissions de carbone et le réchauffement climatique augmentent. Après un an d'interruption à cause de la pandémie de Covid, le salon de l'auto de Washington a rouvert ses portes le week-end dernier avec l'arrivée en force des véhicules électriques. Saqib Oul-Islam de la VOA s'y est rendu. Son reportage est relaté ici par Nathalie Barge.
Les voitures de sport et de luxe affichent leurs caractéristiques futuristes, mais la principale attraction du salon de l'auto 2022 à Washington est le pavillon des véhicules électriques, où les nouvelles voitures à batterie rechargeables volent la vedette. Jim Easterly, visiteur du salon.
L'une des raisons pour lesquelles je suis venu ici pour ce salon de l'auto est de découvrir ce que les constructeurs automobiles individuellement et collectivement prévoient pour l'avenir des voitures électriques ou hybrides.
Les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 41% dans le monde en 2020. Les principaux constructeurs automobiles comme Toyota et Ford s'efforcent désormais d'en produire davantage pour répondre à la demande tout en économisant du carburant et respectant l'environnement. Maggie Clark, spécialiste des produits Toyota.
Il y a certainement une demande plus élevée ces dernières années pour ce type de véhicule à carburant alternatif. Il semble que les consommateurs souhaitent vraiment réduire leur empreinte carbone.
Mark Spencer a conduit 3 heures avec son fils et son père pour venir découvrir les véhicules électriques. Il cherche une voiture à bon prix et meilleur kilométrage, mais il a aussi d'autres préoccupations.
Ils doivent baisser les prix pour que tout le monde puisse se le permettre et ils ont vraiment besoin de l'infrastructure pour les soutenir. Vous ne pouvez pas attendre à la station-service pendant 30 minutes pour une recharge.
Le pavillon des véhicule électrique est parrainé par Electrify America, un réseau de bornes de recharge rapide basé à Washington qui s'étend à travers les États-Unis. Son objectif est de faciliter l'adoption des véhicules électriques par les consommateurs. John O'Donnell, président du salon de l'auto à Washington.
Tesla vend des véhicules électriques depuis longtemps. Le problème, c'est que les prix sont assez élevés. Donc, si vous retirez Tesla de l'équation et mettez quelqu'un comme Nissan, General Motors ou Toyota ou une Hyundai qui a une capacité de marché de masse, vous pouvez faire en sorte que le pays les adopte plus rapidement à un tarif plus abordable.
at a more affordable rate.
O'Donnell affirme que les consommateurs américains sont désormais plus ouverts à l'idée d'avoir des véhicules électriques grâce au crédit d'impôt offert par le gouvernement. Les véhicules électriques seront relativement courants en 2025 chez la plupart des constructeurs, soit 17 ans après la première voiture entièrement électrique conçue par Tesla en 2008.
Voilà pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia et Nani Talani, à la mise en onde Michel Joseph, à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.